Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jocelyne Moussao.
Kinshasa, plus de 320 cas de choléra en 3 semaines à l'unité de traitement de Kankokolo. La prise en charge gratuite est assurée par Médecins Sans Frontières et les autorités rassurent sur l'efficacité de la riposte. 2 ans après la mort de Chérubin Okende, sa famille réclame toujours justice et demande au président Tshisekedi de sortir de son silence. Lancement le week-end à Bounia du projet de coopération transfrontalière, stabilisation et résilience des zones frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Manassé Assamé, expert de Trademark Africa, est l'invité de ce journal pour expliquer ce projet. Bonsoir à tous. Plus de 321 cas de choléra enregistrés en 3 semaines à l'unité de traitement de choléra de la zone de santé du Kankokolo à Kinshasa. Les malades sont pris en charge gratuitement grâce à l'appui de l'ONG internationale Médecins Sans Frontières. Stanislas Diumi est descendu sur place. Voici son reportage.
Créé depuis le 16 juin 2025 à côté de l'hôpital du Kankokolo par l'ONG internationale Médecins Sans Frontières, l'unité des traitements du choléra du Kankokolo reçoit en moyenne 10 malades par jour de choléra pour la prise en charge. Docteur Théophile Lukembe, responsable médical terrain pour le compte de MSF, dont la riposte contre le choléra, rappelle à la communauté qu'elle en peut non seulement guérir du choléra, mais on peut le prévenir aussi.
Je dois rappeler à la communauté que le choléra n'est pas une fatalité. Donc c'est une maladie guérissable. Mais aussi, c'est une maladie qu'on peut prévenir.
Pour le docteur Moussouki Berki du ministère de la Santé, depuis l'existence de cette unité de traitement de choléra, plusieurs malades sont guéris et très peu de décès sont enregistrés.
Depuis que l'ITC Kokolo a été créé, nous sommes déjà au-delà des 300 malades. Et il y a aussi des guéris. Il y a malheureusement ceux-là qui sont décédés.
Quelques malades trouvés sur place n'ont pas manqué de témoigner.
Beaucoup d'intentions.
J'ai vu la mort de mes yeux. Partout où nous avons été dans les différents hôpitaux pour les soins, c'est ici où nous voyons vraiment que la prise en charge est meilleure. Faites attention, le choléra est vraiment réel et il tue.
Notez également que tous les personnels de cette unité de traitement du choléra ont été formés par les experts de Médecins Sans Frontières.
Et pendant que Kinshasa enregistre une recrudescence des cas dans le Maniema, les autorités misent sur la prévention. À Kindu, une campagne de vaccination de masse contre le choléra a démarré hier dimanche. Du 13 au 17 juillet, plus de 2 millions de personnes, soit 96% des populations âgées d'une année jusqu'aux personnes de troisième âge, sont attendues. Considérant l'ampleur de la maladie dont le taux de létalité est de 3,5%, à en croire le chef des divisions de la santé, l'autorité provinciale appelle toute la population à se faire vacciner pour se protéger contre ces fléaux qui fait des victimes dans les familles. Les vaccinateurs feront du porte-à-porte dans toutes les 4 zones de santé les plus touchées. Il s'agit de Kailo, Kindu, Alunguli et Punia. Florence Kizalunga, reportage.
Au marché central, point de départ de la campagne, plusieurs personnes se sont présentées pour recevoir cette unique dose de vaccin afin de se prévenir contre le choléra qui a déjà endeuillé de nombreuses familles, ce qui justifie la joie des personnes vaccinées.
Vraiment, j'ai bien pris ça et tout est bien passé. Je me protège.
Moi, je suis content de prendre quelques gouttes de ces médicaments pour que je puisse me protéger contre le choléra.
Le chef de division de la santé reste convaincu qu'avec cette vaccination, la courbe de l'épidémie sera descendue. Docteur Faustin Bekonda.
Il y a 4 zones de santé qui ont eu des flambées des cas. De la première semaine à la 26e semaine épidémiologique, nous avons enregistré beaucoup de cas. Et en tout cas, avec cette vaccination, je pense que le nombre de cas sera diminué.
Pour le bon déroulement de cette campagne, les partenaires techniques et financiers plaident pour une bonne collaboration. Docteur Jean-Pierre Okanjo.
Le choléra est complexe dans la riposte. Il faut l'accès à l'eau potable, il faut promouvoir une hygiène individuelle et collective, et à cela s'ajoute la vaccination réactive. À la province, une franche collaboration et un accompagnement, une coordination aussi bien fignolée, on aura les résultats escomptés.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Deux ans après sa mort, la famille de feu Chérubin Okende, toujours en quête de la vérité. Dans une lettre ouverte au président de la République, elle interpelle Félix-Antoine Tshisekedi sur son silence concernant les circonstances de la mort de l'ancien ministre des Transports, député national et porte-parole du parti Ensemble pour la République. Son corps sans vie avait été retrouvé par la police à bord de son véhicule tôt le matin du 13 juin 2023 sur l'avenue des Poids Lourds, quartier Kingabwa. Le parquet général après la Cour de cassation avait parlé d'un suicide à l'issue d'une enquête, thèse que la famille du défunt continue de rejeter et réclame la réouverture du dossier pour que justice soit établie. Jeff Ngoy pour les détails.
Pour raviver la mémoire de son père, Frida Okende s'est adressée au président de la République le 12 juillet en ces termes. Si je vous écris aujourd'hui, c'est d'abord en tant que fille d'un homme d'État qui a servi la nation avec dignité, mais aussi en tant que citoyenne ébranlée par ce sentiment d'abandon, ce silence de l'État face à la disparition d'un serviteur de la République. Elle est soutenue dans sa démarche par l'avocat de la famille, Laurent Onyemba.
La famille Okende célèbre un drame. Au regard des déclarations que vous avez suivies de l'honorable Moderon Simba, ministre honoraire, la famille a réintroduit une plainte au parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Plainte restée lettre morte jusqu'aujourd'hui. Ce que nous savons est que la famille s'est à nouveau tournée à la justice congolaise et elle croit que cette dernière va devoir redorer le blason en vue d'honorer la mémoire de cet homme. Et donc, au niveau international, il y a des procédures que la famille a engagé. Au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union interparlementaire, les dossiers continuent, mais que du point de vue pénal, aujourd'hui nous attendons la décision de la réouverture de cette affaire devant le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Parce que nous avons redéposé la plainte au regard du récit plus que cohérent de M. Moderon Simba qui cite des noms.
La conclusion de l'enquête menée par le parquet a été considérée comme une insulte pour le défunt.
Quittons la capitale et cap à l'est du pays. En Ituri, des attaques armées ont de nouveau endeuillé la région de Bunia. Hier dimanche, une triple attaque des groupes armés s'est déroulée à Solenyama, à une dizaine de kilomètres au nord de Bunia, ainsi qu'à Iga Barrière et au site déplacé de Tché, dans le territoire de Djougou. Le bilan provisoire est de 4 morts parmi les déplacés et de 3 militaires blessés. Des sources locales signalent également le déplacement des populations et la paralysie des activités économiques dans ces entités. Le trafic sur la RN27 de Bunia-Mahagi a repris timidement ce lundi grâce au déploiement des FARDC. Isaac Remoyope.
La première attaque de la milice Convention pour la Révolution Populaire SRP de Thomas Lubanga s'est déroulée dimanche vers 6h contre une position des FARDC au village de Centra Solenyama à environ 14 km au nord de Bunia dans les territoires d'Irumu. L'armée a répliqué les combats en durée presque 2 heures entre les deux parties entraînant les déplacements des populations locales. Quelques heures après vers midi, un autre groupe de cette milice a pris d'assaut les positions des FARDC au centre commercial d'Iga Barrière à 25 km de Bunia. 3 militaires ont été blessés, certains services de l'État saccagés et les activités économiques paralysées. Le trafic a été suspendu presque tout l'après-midi sur la RN27. Dans la soirée, cette fois, les miliciens de la Côte d'Eco ont fait incursion au site de Tché, à plus de 80 km au nord de Bunia. 4 déplacés ont été tués et 12 autres blessés et qui sont admis aux soins dans une structure sanitaire à Drodro, précise des sources de sécurité. De nombreux déplacés ont fui pour s'installer dans un autre site d'Héro, dans la même zone. Les casques bleus de la Monisco se sont déployés sur place pour limiter les dégâts. Les FARDC ont également renforcé leurs effectifs dans la région pour stopper les menaces de ces groupes armés. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
D'autres foyers de tension sont signalés au nord Kivu. La situation reste tendue et volatile ce lundi dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Des affrontements ont opposé dans la matinée les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo près de Nyamilima, groupement de Binza, chefferie de Bouisha. Pendant ce temps, nos sources locales rapporte une découverte de plusieurs corps de civils près de Kiseguro dans le même groupement. Ce, alors que plusieurs autres localités de la chefferie voisine de Buito dans le même territoire ont été ce week-end le théâtre d'autres combats entre les mêmes belligérants. Et dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, il y a eu une manifestation des dépendants des militaires dans la matinée de ce lundi au centre-ville. Ces derniers réclament 6 à 7 mois d'arriérés de leur pension. Ils ont barricadé la route au niveau du rond-point Nyamwisi, paralysant partiellement la circulation dans le centre-ville. Pendant ce temps, les autorités militaires en charge du service d'éducation civique, patriotique et action sociale demandent à ces dépendants de se rendre au camp militaire de Mambango, où leurs réclamations trouvent trouveront solution. Marc Marofimbo, reportage.
Ils étaient une centaine de dépendants des militaires, veuves et orphelins, à descendre dans les rues de Bénissou lundi matin. Ils ont assiégé les grands ronds-points Nyamoussi où des pneus ont été brûlés. Sur leurs calicots et banderoles, on pouvait lire « Respecter la mémoire de nos maris qui ont servi sous le drapeau de ces pays en répondant aux droits de leurs familles ». L'une des manifestantes explique la raison de leur action. Nous manifestons parce que nous n'avons plus accès à nos droits. Nous passons nuit à la Belle Étoile avec nos enfants. Nos maris qui ont servi sous les drapeaux sont déjà morts au front et voilà 6 mois que nous ne sommes pas payés. Il nous faut marcher tous les jours dans leur bureau. Ils nous parlent des IG, Inspection Générale des FRDC, dont on ne sait même pas sa provenance. Contacter les responsables du service d'éducation civique patriotique et action sociale, SECAS, dans la région de Beni, qui disent être au courant de cette situation, demandent à ces dépendants de se rendre au camp militaire général Chico à Mambango de Beni, où les services compétents statuent sur leur dossier. Signalons que parmi les manifestants figuraient également les dépendants des militaires venus de Goma et de Rutshuru. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
À Kisangani, environ 2 semaines avant l'entrée en vigueur des mesures sécuritaires annoncées récemment par le nouveau commandant provincial de la police nationale congolaise dans les secteurs de transport, le conducteur des mototaxis donne de la voix. Alors que le général Elvis Palanga exige aux motards le port de certains signes distinctifs afin de remettre de l'ordre dans ces secteurs, les conducteurs des mototaxis, eux, les apprécient différemment. En plus, ils dénoncent déjà des tracasseries de la part de certains policiers. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Tout conducteur de mototaxi est astreint au port d'un gilet vert, d'un casque et des chaussures fermées ou des ketchup. Le gilet vert va marquer la distinction entre les taximens et les éléments de la police de circulation routière qui, eux, portent désormais des gilets de couleur orange. Avant cette mesure, la confusion était totale. Certains taximens regrettent que bien avant l'entrée en application de ces mesures, le 1er août prochain, ils font déjà face aux tracasseries.
À certains endroits comme au parking, ici au marché, sans qu'il ne soit autorisé, les policiers sont en train de nous arrêter. Si vous allez au camp PM sans casque ni gilet, on vous arrête. On ne sait pas si ce sont de PCR ou non.
D'autres, en revanche, tout en promettant de se conformer dans la mesure du possible, trouvent que l'achat du gilet est une charge supplémentaire qui risque de peser sur leurs maigres recettes.
Que ça ne soit pas cher, le gilet. Sinon, nous allons nous briller. Ce sera vraiment difficile parce que c'est tout ce que nous avons comme métier pour assurer notre survie.
Le commandant de la PNC prévient, les motos saisies pour non-respect de ces mesures ne sera restituées à son propriétaire qu'après 30 jours, mais sans aucun frais à payer. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Kananga, c'est l'alerte sur la protection des mineurs. La Lisadel interpelle les parents et les organisateurs de kermesse sur la présence d'enfants non accompagnés. Il s'agit de la kermesse organisée dans l'espace de l'hôtel de ville de Kananga. Cette ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves indique que ces enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents restent dans cet espace jusqu'aux heures tardives. Son coordonnateur provincial, qui craint que certains soient abusés, appelle les organisateurs et les forces de l'ordre à ne pas autoriser l'entrée des mineurs quand ils ne sont pas accompagnés de leurs responsables. Écoutez Jean-Malice Lungala dans ses propos recueillis par François Kadima.
La Lisadel Cassage Central, qui est une ONG de protection des droits des enfants élèves, constate avec amertume la présence permanente des enfants de moins de 18 ans, dont l'âge varie entre 8 ans et 14 ans, à la kermesse et dans les heures tardives. Nous demandons aux organisateurs de cette kermesse de veiller à ce que ces enfants qui ne sont pas encadrés par leurs parents, qui ne sont pas accompagnés par leurs parents ou sont pas les responsables, qui ne puissent pas piétiner la kermesse et surtout à ces heures-là. Nous avons une crainte qu'au sortir de ces enfants-là de la kermesse vers 23h, 24h, qu'ils soient violés, surtout pour les enfants filles, qu'ils soient abusés ou soit qu'ils rencontrent des événements malheureux, puisque ce sont des personnes vulnérables, c'est une catégorie de personnes vulnérables. Et au gouvernement provincial, au travers ces services spécialisés, notamment la police de protection, qu'ils puissent veiller à ce que les enfants ne puissent pas pénétrer la kermesse eux-mêmes sans qu'ils ne soient pas encadrés par leurs responsables. Je sais que c'est un moment de distraction, un moment aussi où les enfants peuvent se déstresser, mais ils doivent être encadrés par leurs responsables.
Retour à Kinshasa, la capitale s'apprête à vibrer au rythme de la rumba. La ville se prépare à accueillir du 16 au 18 juillet le tout premier festival mondial de la musique et du tourisme. 3 sites ont été choisis pour abriter cet événement, le centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, l'esplanade du Palais du Peuple et l'échangeur de l'Imété. Radio Kapi a visité ces sites où tout est fin prêt pour l'organisation de ce festival. Explication, Blaise Ndongala.
Des délégations de plusieurs pays arrivent déjà dans la capitale congolaise et d'autres sont encore attendues dans les prochaines 24 heures, dont 12 ministres du tourisme venus des pays étrangers pour participer à ces festivals. Placé sous le thème « La route de la rumba », cette première édition CV, un espace d'échange, de découvertes et de rencontres mettant en lumière la rumba congolaise comme passerelle culturelle entre l'Afrique, les Amériques et le reste du monde. Cet événement culturel et touristique vise à valoriser la culture congolaise et à positionner la RDC comme une destination touristique majeure. En marge de cette activité, le ministre du Tourisme a déclaré, je cite, « Lorsqu'on cite la RDC dans les grands salons du monde, on ne peut plus seulement parler de la guerre, car il y a également les performances et les opportunités qu'offrent les pays. » Fin de citation. À Radio Capi, Didier Mpambia a également souligné que ce festival va promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, des dialogues interculturels et des développements économiques inclusifs forts. Pour sa part, la ministre Yolande Elebe insiste sur la richesse culturelle congolaise à valoriser, notamment la musique, la gastronomie, l'artisanat et bien d'autres domaines.
Actualité internationale.
Nigeria, les hommages se succèdent après la mort de Muhammadu Buhari. Le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, et le président de l'Assemblée nationale sont arrivés à Londres ce lundi pour amener au Nigeria le corps de Muhammadu Buhari. L'ancien président est décédé hier dimanche à 82 ans et sera inhumé dans son village natal dans l'état de Katsina, dans le nord du pays. Dans la classe politique, les hommages sont unanimes, bien qu'ils laissent un héritage mitigé.
L'invité.
Le gouverneur de l'Ituri a lancé officiellement vendredi 11 juillet à Bunia le projet de coopération transfrontalière, stabilisation et résilience des zones frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Il vise à renforcer la cohésion sociale, la sécurité et inciter la croissance économique entre les deux pays voisins. Les territoires de Djougou, Haru, Mahagi et Irumu du côté congolais sont des entités où divers projets seront exécutés grâce au financement de l'Union européenne. Pour en parler, nous recevons Manassé Assama, le responsable des facilitations des échanges au sein du programme pays du Trademark Africa à DRC. Il s'entretient avec Jean-Claude Louki.
Manassé Assama, bonjour.
Bonjour.
L'Union européenne met à la disposition du gouvernement congolais et ougandais 25 millions d'euros pour financer différents projets dans des zones situées le long des frontières entre les deux pays. Et c'est l'Organisation internationale pour la migration, OIM, et Trademark, donc, qui sont les partenaires d'exécution choisis pour ce vaste programme qui va durer, je le précise, 3 ans. Quelles sont les activités qui seront menées sur le terrain?
Alors, il s'agit d'un programme transfrontalier qui a donc deux volets. Il y a un volet qui traite des questions de cohésion sociale et des conflits intercommunautaires qui sera implémenté par l'OIM. Pour nous, Trademark, ce qui nous concerne, c'est la composante croissance économique, facilitation de commerce.
Trademark prend le volet Manassé, promotion de la croissance économique en facilitant la circulation sûre et ordonnée des personnes et de leurs biens à travers la frontière. Est-ce qu'il y avait urgence ou besoin dans le cadre de l'implémentation de ce projet?
Il a été fait un diagnostic des manques d'infrastructures. Déjà, il faut noter que la RDC a rejoint la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et donc, dans le cadre de cette intégration, il y a eu un certain nombre de choses qui devaient être harmonisées en matière de commerce, notamment les règles qui doivent s'appliquer dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières, mais aussi les questions de manque d'infrastructures au niveau des postes frontaliers entre la RDC et l'Ouganda, mais aussi des défis en termes de logistique des transports dans le cadre du corridor nord qui part de la RDC, qui l'ouvre donc au port de Mombasa et de Dar es Salaam. Et donc Trademark intervient justement sur ces questions-là des facilitations de commerce. Le projet vise donc à mettre en place les infrastructures frontalières qui nécessite d'être adressé dans ces contextes-là. C'est pour ça que Trademark est, depuis 2020, en train de construire les infrastructures à Mahagi, donc le modèle de poste frontalier à arrêt unique qui est fait à Mahagi avec toute la plateforme logistique associée. Donc je parle de parking, je parle de la route, je parle du pont qui relie la RDC et l'Ouganda. Je parle aussi des éclairages, donc les équipements pour le bureau, les solutions informatiques et toutes ces choses qui font font que Mahagi soit un pôle important dans les cadres du commerce transfrontalier. Mais aussi, il y a les questions des normes. Et aujourd'hui, il ne suffit pas de faciliter les commerces à travers les infrastructures, mais il faut aussi travailler sur les normes pour les produits qui sont échangés. Et donc, dans ces cadres-là, le programme va viser la capacitation de l'OCC en matière de normes sanitaires et phytosanitaires, mais aussi fournir des laboratoires mobiles, notamment à Mahagi et à Haru pour l'OCC, mais aussi les questions des migrations qui seront adressées, notamment en renforçant la capacité de la DGM, mais aussi la question de la patrouille transfrontalière, en capacitant les unités de patrouille transfrontalière avec les équipements nécessaires pour la sécurisation des frontières. Parce que vous connaissez les contextes de la région, il y a les frontières officielles ciblées, mais il y a aussi les postes, les pistes de frontières qui ne sont pas contrôlées. Il y a une frontière terrestre qui est poreuse, donc il faut renforcer les questions de surveillance. Mais, et le bout du nez, c'est les secteurs privés dans tout ça. Les secteurs privés, donc les petits commerçants transfrontaliers dans la zone, seront encadrés, formalisés et accompagnés pour bénéficier du régime commercial simplifié, qui est un régime spécial pour les petits commerces transfrontaliers, qui déroge aux règles de douane générale. Et donc, voilà.
Vous démarrez ainsi ce programme avec autant de millions d'euros qui seront injectés pour financer ce programme dans la province de Turi, où la paix est encore fragile, les armes circulent encore, les groupes armés détiennent encore leurs armes. Quelles garanties sécuritaires avez-vous pour mener dans la quiétude vos activités sur le terrain?
Le contexte sécuritaire, effectivement, c'est une donne qu'il faut prendre, qu'il faut composer avec. Nous n'avons pas la maîtrise du contexte sécuritaire. Nous allons suivre les indications de sécurité nécessaires, mais nous pensons que les frontières ciblées sont des frontières qui ont tenu compte des aspects sécuritaires et donc ce sont des frontières qui sont accessibles et sur lesquelles nous pouvons travailler si la situation sécuritaire reste maintenue à l'état actuel.
Manassé Assama, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde et Alain Erung Mouchinj à la coordination. Pour plus de nouvelles, retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous et restez à l'écoute de Radio Okapi, la radio de la paix.